L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
J'ai un problème. Bon, en vrai, j'en ai plusieurs, mais j'ai un problème, c'est que je pense que la politique, c'est essentiel, et en même temps, j'ai plus du tout confiance dans les politiques. Je ne sais pas si vous avez la même sensation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je reçois David Jayce, qui est un normalien, énarque, prof à Sciences Po de philosophie politique, auteur de Slow Democracy, pour parler justement avec lui de comment on refait confiance à la politique, aux politiques, c'est quoi les problèmes dans lesquels on est aujourd'hui, la chute de la démocratie un peu partout, mais aussi, on le voit un petit peu en France, les problèmes liés à la mondialisation versus le localisme, le problème lié à l'environnement. Bref, on essaye d'avoir une vision un peu globale de tout ça avec David durant les 40 prochaines minutes qui se promettent d'être passionnantes pour vous. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour David.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va et toi?
Pas trop mal. Donc nous, on s'est rencontrés en soirée, en fait. Chez Eugénia, en l'occurrence.
Je crois qu'on peut
dire ça. Néanmoins, donc t'es prof à Sciences Po, t'es vraiment le produit l'école française, donc t'es normalien, énarque, t'es prof à Sciences Po de philosophie politique. Et justement, en fait, on a commencé à avoir cette conversation dans cette soirée. T'as écrit un bouquin qui s'appelle Slow Democracy, qui est assez passionnant et qui parle de récits autour de la politique. Et moi, et la conversation qu'on a engagée, et c'est pour ça que je me suis dit, il fallait absolument que tu viennes sur Volant pour en parler, c'est se dire, mais comment on réintéresse les gens aux politiques, à la politique, plus qu'aux politiques d'ailleurs. J'ai l'impression, enfin moi, c'est ma sensation qu'aujourd'hui, les politiques, on peut plus leur faire confiance, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout alignés. Ils se font élire sur un truc, ils te tiennent un discours, puis en fait, ils font un truc qui n'a rien à voir. Et c'est pas une question de parti, c'est juste ils sont tous pareils. À la limite, Trump est quasiment plus rassurant parce qu'en fait, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, donc au moins il y a pas de surprise. Et c'est aussi sans doute pour ça que son taux de popularité bouge pas. Les politiques en France qui sont modérés, démocrates. Ben en fait on sait absolument pas pourquoi on vote. Qu'est-ce qui fait et comment on fait? Comment on fait pour réintéresser les gens à la politique et pour leur redonner confiance dans la politique?
Alors, je pense qu'avant de se demander comment on fait, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a une telle crise et pourquoi les gens s'intéressent plus à la politique. L'explication qu'on entend souvent dans les médias, au café, dans les discussions, les repas de famille, c'est au fond, les gens sont devenus individualistes, ils sont avec leurs réseaux sociaux, ils ont leurs sorties, leurs amis, et finalement, ils se sont repliés sur leur sphère privée.
Ouais.
Ça, c'est vrai, mais je pense que c'est pas la cause. Ça, c'est plutôt la conséquence. La cause, à mon avis, c'est que, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, depuis 40 ans, il y a eu une perte de pouvoir sur soi de la démocratie, notamment dans les pays occidentaux, c'est-à-dire les politiques arrivés aux responsabilités ne pouvaient pas faire ce pour quoi ils avaient été élus ou trahissaient instantanément les promesses sur lesquelles ils avaient fondé leur programme électoral. Et ça s'explique en partie par la mondialisation économique, c'est-à-dire par le fait que aujourd'hui l'économie elle est globale, le capitalisme il est mondialisé, mais les peuples continuent de se gouverner dans les frontières des nations. Et donc quand on arrive sur un programme très volontariste où on dit qu'on va changer la vie, eh bien on se retrouve aux responsabilités et souvent on est impuissant. Et donc mon bouquin, c'est une tentative de montrer comment est-ce qu'on peut reconstruire du pouvoir sur soi, reconstruire de la politique qui change les choses. Et je crois que c'est le moyen pour réintéresser les gens à la politique.
Mais alors du coup, quand tu dis ça, cette hyper-financiarisation du monde qui amène à des conséquences qui sont hallucinantes, et moi j'ai l'association que les politiques, ils ont plus de pouvoir en fait, que en réalité ils se font élire, mais ils sont complètement pieds et mains liés, d'abord parce que il y a cette mondialisation et cette question de en fait comment je gère la croissance, comment je gère le chômage, comment je gère du coup la compétition internationale, et je peux pas prendre des décisions dans mon pays parce que je serais plus compétitif en tant que pays. On entend ça énormément en disant oui, mais si par exemple on taxe trop les riches en France, et ben ils vont partir à l'étranger, ou si on fait ça, ben oui, mais en l'occurrence on va moins être concurrent, ou si on fait pas d'armes par exemple, ben du coup c'est les autres pays qui vont en vendre, on va perdre de la compétitivité. Donc ils ont cette problématique là, et puis ils ont aussi le fait qu'ils ont ils sont ruinés quelque part, ils ont plus d'argent, on met plus trop d'argent dans les moi ça, c'est un truc qui choque tout le monde de dire l'hôpital il y a pas d'argent, l'éducation il y a pas d'argent, enfin tu te dis mais en fait où est-ce qu'il se passe cet argent et comment ça fait que le modèle fonctionne plus en fait.
Bah c'est vrai qu'ils ont perdu du pouvoir depuis 40 ans. Regarde par exemple la politique monétaire qui est essentielle pour un pays. Aujourd'hui, c'est des banques centrales qui sont indépendantes. Là, on est en pleine crise coronavirus. Ouais. L'économie est en train de tousser. Et donc, ouais, il va y avoir une intervention monétaire, mais elle est décidée par des technocrates et des banquiers indépendants. Donc, c'est vrai qu'il y a cette perte de pouvoir. Mais moi, je pense qu'on en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Les peuples ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne le croient. Les citoyens ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne le croient. Et je crois que pour réenchanter en quelque sorte la politique, il faut retrouver le sens, et c'est ce que tu disais dans ton introduction, des récits. C'est-à-dire d'être capable de raconter dans quel monde on veut entrer, de quel monde on veut sortir et dans quel monde on veut entrer. Et je crois que la période que nous traversons aujourd'hui, de grande crise climatique, de grande crise du capitalisme, c'est une période qui est très intéressante pour ça, parce qu'on est à la charnière, on est dans un grand moment de transition, et c'est le moment du retour des grands récits.
Et justement, vers où on va ? Est-ce que tu peux revenir peut-être sur... On parle énormément, je sais que tu critiques beaucoup ça, mais on parle énormément des Trente Glorieuses comme d'un moment incroyable où tout le monde avait de l'argent, où il y avait énormément de croissance, les salaires augmentaient, bon, il y avait de l'inflation, mais finalement, c'était super. Il n'y avait pas de chômage, ou très peu de chômage, etc. Donc ça, c'est le récit, on l'a tous en tête, et tout le monde s'appuie là-dessus, etc. Et puis après, bon, c'est... 68, c'est les crises pétrolières, c'est la crise économique de 2008. C'est pas terrible. C'est quoi ce nouveau récit ? Comment est-ce qu'on peut même réinventer le capitalisme en dehors du fait qu'on n'a pas trop le choix dans l'absolu ? Comment on fait pour allier finalement capitalisme, écologie, confort ? Est-ce que c'est même envisageable en fait ?
Bah, t'as raison déjà de poser la référence aux Trente Glorieuses, parce que effectivement c'est une période dont on a dans l'imaginaire collectif un souvenir plutôt nostalgique, parce que c'est la période de nos parents, et nos parents ils disaient bah oui, la vie s'améliorait, les salaires augmentaient. Je te donne juste un chiffre, entre 1945 et 1975, le niveau de vie des ouvriers a été multiplié par 3. Ouais. Par 3. Depuis 1975, il a à peu près stagné. C'est-à-dire que les salaires ont augmenté au même rythme que le coût de la vie. Donc, tu vois bien que c'est pas pour rien qu'on fantasme un peu sur cette période. Après, les Trente Glorieuses, elle avait aussi énormément de défauts. C'était l'hyperpollution, la consommation de masse, la standardisation. Et la révolte de mai 68, par exemple, c'était une révolte contre toutes ces tares. Mmh. Mais c'est vrai que depuis 40 ans, on a l'impression d'être dans une période un peu indéfinissable, un peu déprimante, pour tout dire. Et il faut qu'on trouve un modèle de rechange. Et évidemment, ce modèle de rechange, ça pourra pas être les Trente Glorieuses. Voilà. Parce que ça pourra pas être la croissance d'un côté, puis je branche un tuyau sur la croissance, et avec ce tuyau, cette pompe, j'alimente la société. C'est-à-dire que les gains de productivité servent à financer les hausses de salaire, le bien-être de la société. Parce que ça, c'est destructeur pour l'environnement, destructeur pour nos équilibres. Et donc aujourd'hui, tout le récit qu'il faut inventer, c'est un récit beaucoup plus sobre, beaucoup plus en phase avec notre environnement, beaucoup plus en phase avec la biosphère. Et ce qui est passionnant, c'est que ça nécessite de tout repenser. Comment on habite, comment on se déplace, comment on pense, comment on design, comment on market, comment on crée de la valeur, comment on réfléchit. Nos rapports intrafamiliaux, nos rapports amicaux, tout doit être repensé en quelque sorte au prisme ou au tamis de cette soutenabilité environnementale. Et c'est passionnant, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas beaucoup d'efforts, d'envergure pour essayer de penser ce nouveau monde.
Ben non, en fait, les politiques, j'ai l'impression que... Alors attends, avant d'aller vers ça, je me disais, toi, tu dis donc les salaires des ouvriers ou de la classe moyenne n'a pas du tout évolué sur les dernières 40 années. Je pense que les gens ont bien réalisé, ouais. se sont bien rendus compte. Mais par contre, pour les personnes les plus aisées, ça a beau... Tu connais les chiffres ou...
Ah bah oui, je peux te donner les chiffres. C'est une augmentation entre 100 et 120% pour le top 1% dans les pays occidentaux à cause de la scalabilité. Je ne sais pas si tes auditeurs connaissent le concept de scalabilité.
C'est mise à l'échelle. En fait.
Voilà, c'est Nassim Nicholas Taleb qui développe ça dans Le Cygne Noir, The Black Swan. Il explique qu'avec la mondialisation, on peut démultiplier son audience sans augmenter les coûts de production. Donc quand je suis chanteur, quand je suis écrivain, quand je suis footballeur à succès, il y a 50 ans, j'avais un public local et maintenant, j'ai un public mondial. Donc du fait que Maria Carré, par exemple, elle a 1 milliard de vues sur YouTube, ben, elle augmente considérablement ses revenus. Et c'est cette scalability qui explique véritablement les écarts de revenus qui vont se creuser entre un top 1% et des gens qui, eux, restent dans des métiers du quotidien où ils n'ont pas les bénéfices de la mondialisation.
Mais les bénéfices de la mondialisation, est-ce que ce n'est pas justement le fait de pouvoir produire à moindre prix ? Parce qu'il y a aussi cette question-là en disant, oui, mais quand on produit, alors... avant en Chine, maintenant au Pakistan ou dans des pays à moindre coût, les objets ils sont moins chers, donc ça permet aux classes moyennes justement d'y accéder aux personnes les moins favorisées d'y accéder. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que si demain on reproduit tout en local en France, les prix vont augmenter, donc ils vont plus pouvoir accéder finalement.
Alors je vais te répondre en deux points. D'abord, je pense que on peut pas tout produire en local, hein. Ça c'est évident. C'est-à-dire que la mondialisation, ça a du bon pour certains produits, ça permet de spécialiser les économies, et donc il est évident qu'il faut garder des industries compétitives à l'export, etc. En revanche, le problème de cet argument de dire on délocalise mais ça permet d'acheter moins cher, c'est qu'on privilégie la quantité sur la qualité. Ouais. Quand tu vas dans un magasin type Nike, Adidas ou dans la grande distribution, t'achètes des produits, on te dit vous en achetez un mais vous en avez la deuxième paire de Nike ou le deuxième paquet de céréales pour 50%. Et puis au bout d'un an, c'est l'obsolescence programmée, on revient acheter. Et donc finalement, ça coûte presque aussi cher que d'acheter un produit local, d'artisanat local, qui est handmade en quelque sorte. Et au final, je suis pas persuadé que les plus modestes s'y retrouvent. Donc ça, c'est, je pense qu'il faut sortir en fait de ce récit sur la quantité, sur l'accumulation, et aller vers quelque chose plus orienté sur la qualité. Et là, tout le monde s'y retrouvera. Et ensuite, évidemment, il faut garder ce que la mondialisation peut avoir de bon, notamment sa faculté connecting people, c'est-à-dire sa faculté à rapprocher les gens, à rapprocher les cultures. Mais il faut être très lucide sur ce que ça peut avoir aussi de destructeur pour le contrat social.
Ben ouais, c'est ça. En fait, je pense que les gens ont... ou en tout cas, mais on a l'impression d'être dans cette roue et de pas savoir comment en sortir en fait. Enfin, et on a l'impression, enfin moi j'ai la sensation que parfois on peut en sortir au niveau mondial, mais au niveau local, c'est-à-dire national, ce que j'appelle local en l'occurrence pour la France, ça reste local, mais c'est national. C'est compliqué en fait. On peut pas dire la France ça marche comme ça et puis le reste du monde il fonctionne autrement. Enfin, à moins d'être la Corée du Nord, c'est un peu compliqué.
Bah, en fait, tu peux trouver des solutions à travers ce que j'appelle moi l'empowerment territorial. C'est-à-dire qu'à chaque échelle, que ce soit l'échelle de ma commune, l'échelle de ma nation, l'échelle européenne, tu peux arriver à reconstruire des îlots, en quelque sorte, de décélération, des îlots de slow économie qui sont un peu soustraits à la mondialisation. Je te prends un exemple sur le niveau local. Tu peux décider, quand tu es maire d'une commune, que dans les cantines, il y aura 100% d'alimentation bio pour les enfants qui vont à l'école. Et cette alimentation bio, elle vient des circuits courts, elle vient des producteurs locaux. Mmh. Ben là, tu fais de l'empowerment territorial parce que l'argent de la cantine, tu le destines à des agriculteurs locaux et pas à des produits manufacturés alimentaires qui viennent de Chine ou de je ne sais où. Pareil pour la rénovation des bâtiments. Il y a des dizaines de millions de passoires thermiques partout en Europe. Les gens ont des factures de chauffage qui explosent. Eh ben, il suffit d'activer un peu d'investissement public pour faire de la rénovation des logements. Et là, c'est un formidable outil pour l'artisanat local. Parce que pour rénover un logement, il faut des compétences en carrelage, en menuiserie, en charpente, etc. Et donc, tu peux faire travailler dans le bassin de vie des gens. Et moi, je dis que cette slow economy, elle a une vertu au-delà de créer des circuits courts, c'est qu'elle rapproche les gens. elle rapproche les gens localement. Et ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est de recréer du lien. Parce qu'on est dans des sociétés de solitude où les gens sont de plus en plus éclatés, atomisés, et ils en souffrent profondément. En revanche, quand tu arrives à recréer du lien à travers cette slow economy, mais plein d'autres choses, à travers les récits aussi, qui sont très importants, les récits territoriaux, eh ben, les gens retrouvent goût à la politique. Et même si c'est pas la politique politicienne qu'ils détestent maintenant, c'est une forme de politique, parce que la politique, en fait, c'est le vivre ensemble, c'est comment on vit en société. Et rappelle-toi qu'Aristote disait, l'homme est un animal politique, c'est-à-dire que ce qui différencie l'homme des autres animaux, c'est qu'il vit en société. Donc la politique, elle est partout. Et en quelque sorte, je veux le dire aussi aux auditeurs, si on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupera de vous. Et sans doute pas pour le meilleur, vu les crises qu'on traverse aujourd'hui. Donc c'est très important d'avoir ces choses-là en tête.
Et d'ailleurs, quand tu dis ça, c'est vrai que la politique, l'action politique se fait souvent au niveau local. On regarde beaucoup, finalement, le niveau national, mais la vraie action, elle se fait au niveau local, finalement.
La vraie action se fait au niveau local, sur plein de sujets, notamment sur le sujet qui, pour moi, est un des plus importants, qui est le design, l'architecture et l'urbanisme. C'est-à-dire que le paysage mental, la carte mentale des gens, c'est ce dans quoi ils vivent, ce qu'ils ont autour d'eux toute la journée. S'ils vivent en permanence dans du moche, dans des zones d'activité commerciale, dans de l'étalement urbain, dans des boîtes à chaussures en bordure de ville, c'est fondamentalement déprimant et ça a une influence considérable sur l'imaginaire. En revanche, si on construit de la proximité, du beau, de l'harmonieux, avec un effort urbanistique et d'architecture, on peut changer les représentations et l'imaginaire des gens.
Mais alors, la question que les gens se posent sans doute à ce moment-là, c'est super, hein? Mais avec quel argent on fait ça? Il n'y a déjà pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a déjà pas d'argent pour les pompiers, il n'y a déjà pas d'argent pour les policiers, pour l'éducation nationale. Où est-ce qu'on trouve cet argent,
en fait? Je te donne un exemple très simple sur l'urbanisme. Ça coûte moins cher ce que je propose que ce qu'on a fait pendant des années. Parce que quand tu fais des banlieues pavillonnaires à perte de vue, avec des maisons qui sont très espacées, le coût est beaucoup plus élevé parce que tu dois raccorder les réseaux d'eau, d'électricité, tu dois couler du béton, du macadam, etc. Quand tu proposes de recréer de la proximité, de reconquérir le beau, tu rénoves les logements dans les centres-villes, dans les centres anciens. Il y a 15% de logements vacants dans les villes moyennes en France. Si ces logements, tu fais un plan de rénovation et que les gens reviennent vivre dans les centres-villes, retrouvent du lien, ça te coûtera moins cher et ça créera beaucoup plus de bonheur public et de solidarité entre les gens.
Et alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai coupé, mais finalement, on va y revenir. J'ai la sensation que les politiques, et c'est peut-être l'éducation à l'ENA qui fait ça, hein, tu vas me dire, mais qui sont hyper action-solution, c'est-à-dire, tiens, il y a un problème de pollution, la solution, c'est de réduire les gaz à effet de serre, alors qu'en réalité, effectivement, comme tu le disais, je pense que la solution, c'est pas juste de réduire les gaz à effet de serre, c'est de repenser la ville. Il y a énormément de gens qui font des transits banlieue Paris qui sont absolument pas nécessaires. Peut-être qu'il y a besoin de repenser complètement la manière dont les gens travaillent. Enfin, et sans doute, de toute façon, on n'aura pas forcément le choix, mais repenser la manière dont les gens se déplacent, parce qu'on leur a vendu pendant des années, et on continue d'ailleurs, quand tu vois les profits de Peugeot, à leur vendre l'indépendance dans la voiture, et c'est tellement agréable, etc. Et c'est pas faux, hein, c'est assez agréable. Enfin, j'ai pas de voiture, mais c'est,
j'imagine. En tout cas, faut pas cracher sur ce modèle, que, voilà, il a eu des...
Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ce modèle, il nous a emmené dans le mur. On est allé beaucoup, beaucoup trop loin. Donc en fait, est-ce que c'est l'éducation à l'ENA qui implique ça, d'être vachement action-solution, ou de, comment tu fais pour avoir une vision holistique, pour repenser le monde?
Je dirais que c'est pas limité à l'ENA. C'est-à-dire que même dans les entreprises, souvent, on a tendance à se poser, on a tel problème de rentabilité, voilà les actions qu'il faut, le plan d'action qu'il faut introduire. Et au fond, l'approche technocratique de la politique, c'est un peu la même chose. On a un problème de compétitivité, il faut baisser le coût du travail. On a un problème de délinquance, il faut augmenter les forces de police, etc. Sauf que, à mon avis, ça, c'est une approche, effectivement, qui repose sur l'analyse, c'est-à-dire la décomposition des problèmes en toutes petites unités. Alors que ce dont on a besoin aujourd'hui, précisément parce qu'on est dans un moment de grande transition, de passage d'un monde à l'autre, et ça s'accouche dans la douleur, en quelque sorte, c'est d'avoir des grandes synthèses, des grands récits qui donnent sens à tout ça. Et t'as tout à fait raison de parler de la vie, parce qu'il y a deux façons de faire de l'urbanisme. Il y a la façon où tu traites les choses de manière segmentée. Donc tu t'occupes, tu as l'équipe des jardins publics, tu as l'équipe du bâtiment, tu as l'équipe de la voie publique. Et puis il y a une façon plus globale. Et tu vois, il y a une entreprise par exemple formidable qui s'appelle Dassault Systèmes, dont l'ambition c'est justement de sortir de l'analyse et du traitement segmenté des problèmes et d'aller vers une approche globale de la ville. Ils ont par exemple un contrat avec Singapour où ils ont récupéré les données de toutes les agences de Singapour, donc agence de l'eau, agence des parcs publics, agence de l'immobilier. Ils ont connecté ces données entre elles et ils arrivent à projeter en 3D une représentation de la ville globale. Et ça, c'est fondamental parce que le virtuel ici, le virtuel te permet d'avoir une représentation holistique, c'est-à-dire une représentation d'ensemble, et donc d'écrire ce récit territorial qui est absolument nécessaire et qui va avoir un impact positif sur tous les segments de l'action publique, beaucoup plus positif que si tu traites chaque segment séparément.
Je ne savais même pas que Dassault faisait
ça. C'est assez nouveau, en fait. Ils ont longtemps bossé pour des boîtes, fait de l'aide au design par le virtuel pour des entreprises privées. Et maintenant, ils se lancent aussi dans l'urbanisme. Et franchement, Dassault, moi, je veux la saluer parce que Dassault Systèmes, c'est une des plus belles boîtes industrielles françaises.
Ouais. Je sais que Google a investi énormément sur les villes connectées, avec toutes les dérives qu'on connaît de Google. Mais il y a une autre question que je me pose et qui fait énormément de débat en ce moment, c'est la chute de la démocratie en France. Tu vois, on dit que finalement l'État dans lequel on est, il est pas totalitaire, mais presque. Et puis il y a certains philosophes politiques justement qui disent oui, mais un policier qui fait un croche-patte à une femme, c'est pas un État totalitaire, c'est une insulte de dire que c'est une insulte au totalitarisme de dire que c'est un État totalitaire. Et d'autres qui disent mais vous rendez pas compte, enfin un policier qui fait un croche-patte à une femme, c'est le début de enfin, c'est quand même n'importe quoi. Il y a quand même cet énorme débat dans la société française en ce moment. Je ne sais pas si tu vois à quoi je fais référence.
Si.
Qu'est-ce qui se passe en fait? Et comment on reprend aussi confiance là-dedans? C'est-à-dire, parce que encore une fois, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que tu votes pour un politique, mais tu ne sais absolument pas quel programme il va mettre en place en fait. Parce que comme il n'a pas de récit, ben, tu ne sais pas où il va. Et puis souvent, on voit bien que les politiques, ils te disent un truc et puis en fait, ils font autre chose. Qu'est-ce qui est en train de se passer par rapport à la démocratie? C'est quoi le problème?
Ben moi, je pense que tout ce dont tu parles, c'est le symptôme d'une dégradation du vivre ensemble. Et cette dégradation du vivre ensemble, on le voit au fait qu'il n'y a plus de débat public à proprement parler. C'est quoi le débat public dans la démocratie idéale? C'est une espèce de forum où les gens échangent des arguments, où on noue des compromis, on n'est pas d'accord, et c'est tant mieux qu'on ne soit pas d'accord, mais on arrive à des positions de compromis. Aujourd'hui, on est uniquement dans l'invective. Et tu vois, j'ai trouvé très intéressant, par exemple, la soirée des Césars. Je sais pas
si
toi ou tes auditeurs avaient regardé cette soirée. Mais c'était affligeant, je trouve, de ce que ça disait de l'état de notre société et de l'état du débat public. C'est-à-dire qu'il y avait que des gens qui étaient sûrs d'être dans leur bon droit, qui étaient dans l'invective et dans une forme de violence, parce qu'il y a une forme de violence symbolique aussi à donner ce prix. De la meilleure réalisation à Roman Polanski, mais il y avait aussi de la part de ceux qui se sont opposés à lui une forme de violence verbale et de maximalisme dans l'attitude. Et donc ça donne l'impression qu'on est dans une société où on n'arrive plus à se parler et donc on n'arrive plus à trancher les problèmes. Parce que le débat public, c'est mettre un problème sur la table, discuter des différentes options et à la fin arriver à une position de compromis ou arriver à trancher le problème. Et aujourd'hui, on a des gens qui vivent dans des bulles. C'est pas pour rien que mon copain Jérôme Fourquet parle d'archipel français, c'est-à-dire des petites îles comme ça qui sont pas connectées les unes aux autres. Et c'est terrible parce que c'est la dégradation du vivre ensemble. Et ça crée du malheur, y compris du malheur individuel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous vous occupez pas de la politique s'occupera de vous, parce que le malheur peut arriver comme ça. Le malheur peut arriver comme ça. Et on voit, avec la crise de la démocratie, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans plein de pays, comme les États-Unis, le Brésil, l'Inde, à quel point les démocraties sont fragiles, et à quel point, demain, elles peuvent basculer dans autre chose. Donc, c'est vraiment le moment de se retrousser les manches et d'essayer de construire ces nouveaux récits qui vont nous permettre d'aborder avec optimisme, avec positivité, avec enthousiasme, ce nouveau monde qui est passionnant à mains égards. Parce qu'il y a beaucoup de défis à affronter et ça va être très difficile, mais en même temps, c'est passionnant.
Et comment t'expliques, toi, justement, le Brexit ou Trump ou Bolsonaro? Comment t'expliques ces phénomènes, en fait?
Si on reste sur la crise des récits, en partie à cause de la crise du récit national, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, c'était aussi un archipel. Tu avais d'un côté Londres ou l'Écosse, qui étaient des régions riches, prospères, qui très à l'aise dans la mondialisation. Tu vois, la City de Londres, par exemple, elle a vu son PIB multiplié par 10 en 20 ans. Alors que le nord de l'Angleterre, désindustrialisé, ça a été une longue descente aux enfers. Et je pense que David Cameron, qui était Premier ministre du Royaume-Uni au moment de la crise économique, il a fait une erreur assez majeure, c'est que il a dit non seulement je baisse la dépense dans l'éducation et la santé, alors que tu sais bien que le service public c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, mais en plus il a dit je vais baisser les impôts pour Londres parce qu'il faut préserver la compétitivité de la place financière. Et donc, le nord de l'Angleterre, il a eu la double peine, en quelque sorte. Moins de services publics et moins de solidarité territoriale de la part des régions les plus riches. Donc, ça a généré un immense ressentiment. Tu sais, on parle des gens qui vivent dans ces régions comme des left behind. Ouais, des gens qui sont laissés derrière, laissés pour compte.
Et le ruissellement.
Et il n'y a pas eu de ruissellement. Bah et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est un vote, évidemment, de ressentiment et de colère, mais qui explique le séisme politique qu'a été le Brexit.
Et les États-Unis ?
Ben, les États-Unis, c'est un peu la même chose, finalement. C'est-à-dire que tu vois que la mondialisation, l'ouverture économique sur la Chine a détruit 2 à 3 millions d'emplois industriels dans les années 90-2000. C'est pas moi qui dis ça, c'est des économistes du MIT. Notamment dans les zones où il y avait de l'industrie automobile, par exemple dans le nord des États-Unis. Vous connaissez tous Détroit, ces villes où il y avait les usines General Motors. Les gens se sont retrouvés au chômage, sans possibilité, bloqués dans des pavillons qui s'étaient endettés pour acheter, qui avaient perdu de leur valeur. Donc il y a une sorte de désespoir social qui apparaît. Et comme il n'y a pas eu justement ce travail de construction d'un récit de reconversion, de reconversion positive de l'économie et de ses compétences-là, eh ben les gens sont allés mettre un ticket sur le seul récit disponible qui était un récit de colère, qui était un récit, mais un récit qui leur promettait la reprise en main. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur Trump comme storyteller. C'est-à-dire que Trump, il raconte une histoire qui est celle de la revanche, en quelque sorte, de cette Amérique-là, de la reprise en main. Et même si ça s'avère complètement illusoire sur le plan économique et dangereux sur le plan démocratique, ben ça a une force d'appel très forte pour les gens.
Et la France, tu penses que ça peut arriver en France aussi ou c'est...
Je ne crois pas que ça puisse arriver dans ces proportions-là, parce qu'on a la chance en France, et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sylvain Tesson quand il dit « la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Je pense que la France, ce n'est pas complètement un paradis et que les gens ne se croient pas complètement en enfer. Ouais. La vérité est un peu entre les deux. Mais ce qui est certain, c'est que la France va mieux qu'on ne le croit en général, notamment parce qu'on a un formidable appareil public de partage de la richesse, de répartition de la valeur, qui fait que, par exemple, quand un territoire subit un choc économique, la désindustrialisation, il y a un système de solidarité à travers, par exemple, les administrations publiques ou à travers les retraites, par exemple. Les retraites, c'est les retraités qui viennent s'installer dans une zone où il n'y a pas d'industrie, ils contribuent en quelque sorte à préserver et à revitaliser cette zone.
Mais ils souffrent. Enfin, on en parlait tout à l'heure, l'hôpital public souffre.
C'est certain qu'on a aujourd'hui des services publics qui sont en difficulté et en souffrance. Et je pense que derrière, tout ce qu'il va falloir repenser, ça fait partie des récits aussi, c'est la réforme de l'État et la réforme de la puissance publique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des services qui sont plus à l'écoute du citoyen, plus horizontaux, plus efficaces en même temps, sans que les dépenses n'augmentent trop, parce qu'il faut quand même mettre le doigt sur une réalité, c'est qu'en France, on a déjà un niveau de dépenses publiques qui est très élevé, qui est de l'ordre de 56% du PIB. Alors moi, je trouve que la dépense publique, c'est une bonne chose quand elle permet justement cette solidarité, mais il faut rester réaliste et donc ce qu'il faut, c'est du design thinking en quelque sorte, c'est-à-dire imaginer comment est-ce qu'on peut faire mieux avec autant.
Et comment on fait bouger des paquebots comme ça ? Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on dit dans le business, ce qui est difficile, c'est de gérer le passif. C'est toujours assez simple de commencer avec une page blanche. Par contre, quand il y a du passif, c'est toujours très compliqué. Et on voit bien les dysfonctionnements majeurs qu'on peut avoir dans toutes les administrations, les lenteurs. Il y a plein de trucs qu'on pourrait optimiser. Et finalement, c'est pas fait. Il y a aussi un petit problème dans la politique, sans doute, de boucle de rétroaction. C'est-à-dire qu'on ne vérifie pas si les actions ou les décisions qu'on a prises ont eu les conséquences qu'on avait prévues, finalement.
Alors, d'abord, je pense qu'il faut... Il faut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que dans les services publics, il y a des administrations remarquables, je pense.
Aux impôts.
Même si on est voilà, tout le monde n'est pas fan des impôts, mais il faut reconnaître que les impôts ça en France, c'est une des meilleures administrations du monde. On peut tout déclarer, payer sur Internet. Ouais. Quand on sollicite un agent, on a une réponse en moins de 24 heures. Donc c'est vraiment assez.
Ça marche bien.
C'est assez performant. Voilà, ça marche bien.
C'est
en même temps, c'est le nerf de la guerre. Après, je pense que les problématiques de transformation que tu évoques, c'est pareil pour l'État et pour les entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, mettre en mouvement des grosses organisations, c'est pas facile. Mais moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus vers le design, une approche design et une approche aussi collaborative, c'est-à-dire une approche où on associe dans des groupes miroirs des panels à la fois d'agents, d'usagers, c'est-à-dire les différentes parties prenantes. Et ça, c'est vrai que on a pas l'habitude de faire ça, parce que longtemps, on a vu la réforme de l'État comme un truc très top-down, qui était pensé par des technocrates en chambre, le fameux Big Bang, etc. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut être beaucoup plus dans la dentelle, mais beaucoup plus dans une approche collaborative avec les usagers, avec les parties prenantes.
Et alors, pour revenir à notre sujet sur la confiance dans les politiques, parce que tout ça, c'est, tu vois, je pense que les gens sont relativement d'accord, ils se disent, bah ouais, c'est super, mais qu'est-ce qui fait qu'on va avoir confiance dans un politique qui va tenir ce discours, peut-être? Toi, t'es pas un homme politique, t'es un haut fonctionnaire, mais t'es pas politique, donc c'est l'avantage. Pourquoi, en fait, les politiques, ils arrivent... Alors, d'abord, ils ont du mal avec ces visions-là, souvent, mais aussi, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à se tenir à leur discours? Pourquoi, en fait, on ne peut pas leur faire confiance?
Bah, je pense
qu'il y a quand même un problème.
Il y a plusieurs raisons. Je pense qu'une des raisons, c'est la crise des récits. C'est-à-dire que la politique, c'est avant d'agir, c'est d'abord d'être capable de mettre des mots sur une époque, des mots M-O-T-S, ouais. des mots sur les mots M-A-U-X, ouais. Et de diagnostiquer une situation. Comme quand on va chez le médecin, on a envie qu'il nous fasse un bon diagnostic. Voilà, vous avez une angine, je vous donne des antibiotiques. Le politique, il faut qu'il soit capable de mettre des mots sur une époque. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les politiques qui mettent le mieux les mots sur une époque. Ça peut être dans la littérature, ça peut être dans le marketing, ça peut être dans un certain nombre de secteurs, dans les ONG, dans les associations. On a des gens qui sont beaucoup plus en phase, beaucoup plus en prise avec les réalités. Que ce soit les réalités digitales, les réalités écologiques. Mmh.
On dit d'ailleurs que les politiques sont déconnectés. Hein,
voilà, on dit souvent ils sont déconnectés. C'est pas un hasard. Mais à côté de cette question de mettre des mots sur une époque, il y a aussi une question très importante qui est d'arriver à tenir ses engagements et d'arriver à délivrer en quelque sorte, faire ce qu'on a dit. Et là, si j'ose dire, c'est pas totalement la faute des politiques. C'est aussi, je commence mon livre avec ça, parce que pendant 40 ans, on a petit à petit vidé la puissance publique de sa substance, mmh. et on a confié un certain nombre de responsabilités à des organes extérieurs à la puissance publique qui n'avaient aucun contrôle démocratique. Et donc, un des enjeux aussi, si on veut avoir cette reconquête de la confiance politique, c'est de redonner à la politique, c'est-à-dire aux citoyens, puisque c'est ça la démocratie, c'est les citoyens qui se gouvernent eux-mêmes, les moyens d'agir véritablement, et donc aux représentants, à ceux qu'on élit, à ceux qu'on choisit, les moyens de tenir leurs promesses.
Alors, tu donnes l'exemple de la Banque centrale, c'est quoi les autres organes?
Bah, tu vas avoir des autorités indépendantes en tout genre, tu vas avoir des organisations internationales. C'est pas un hasard d'ailleurs si Trump, dans sa façon très populiste, mais qui marche auprès des citoyens, il s'attaque à l'OMC, par exemple. Mmh, mmh. C'est une façon de dire, finalement, on a délégué notre pouvoir, notre puissance d'agir à des organes qui ne rendent aucun compte démocratique.
Ouais, et ça, c'est un vrai c'est aussi un énorme problème. Donc, en fait, c'est... Tu penses que ce politique, il est né? La personne qui va être capable de faire ça,
je pense qu'il ou elle, enfin il y en aura plein d'ailleurs, parce que moi je crois beaucoup à la force du collectif.
Bien sûr.
Beaucoup plus qu'aux incarnations, tu vois. Mmh. Dans le changement de monde dont on parlait tout à l'heure, il faut aussi être capable d'être un peu moins dans l'attente de l'homme providentiel ou de la femme providentielle, mmh. et beaucoup plus dans une approche collective. La force des collectifs, on l'a vu par exemple avec le mouvement des places, la Occupy Wall Street, la Puerta del Sol, ou même les printemps arabes. Mmh. C'est des collectifs anonymes.
Mmh. Même les gilets jaunes, finalement, il n'y a pas de...
Voilà, il n'y a pas de leader. Et à chaque fois qu'un leader émerge, souvent, il est zigouillé. Donc, il y a une force du collectif. Et ensuite, évidemment, il faut toujours des incarnations. Je ne suis pas non plus dans la démagogie de dire il n'y a pas besoin d'incarnation. Mais ce qui est certain, c'est que là, on est dans des moments absolument décisifs et que les années qui viennent vont être les années où on peut ou on peut ne pas élaborer ces grands récits qui sont nécessaires au changement de monde.
Et alors, on a touché un tout petit peu l'écologie et le capitalisme, parce que c'est évident qu'on va arriver dans une forme de décroissance. Ça, on peut essayer de le nier, mais a priori, il va pas y avoir vraiment de solution magique, parce qu'on est en train de... Enfin, on consomme de manière infinie des matières premières qui sont finies, donc à bout d'un moment, ça va s'arrêter par essence. Et puis, de toute façon, c'est plutôt souhaitable, parce que ça rend personne heureux non plus. Selon toi, hein, comment on opère la transition d'un monde hyper capitaliste, hyper individualiste, hyper financiarisé, on en parlait tout à l'heure avant, mais on tue des journalistes qui enquêtent sur les malversations de la pollution industrielle. Comment on fait pour passer de cette situation-là, celle d'aujourd'hui en fait, à une situation beaucoup plus positive finalement? Comment on fait pour faire la transition au niveau national versus global? et enfin, comment on entraîne d'abord un État, mais aussi peut-être l'ensemble de la société?
Bah déjà, je pense qu'il y a un sujet très important qui est de passer de la quantité à la qualité. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 4 packs de lessive, dont 2 à 50% fabriqués dans des conditions atroces, j'en ai un, mais que j'utilise de manière beaucoup plus parcimonieuse. Donc il y a un sujet...
Donc je lave moins mes fringues?
Je lave mieux mes fringues. Donc il y a un sujet anti-gaspi, je mets pas 2 doses quand je peux en mettre qu'une seule, etc. Et donc ça, c'est un sujet de comportement individuel, et donc il y a un combat culturel à mener.
Et de design.
Et de design, bien sûr, de design. C'est très important, parce qu'en fait, dans la société de l'illimitation, les produits commercialisés, ils sont pensés justement pour être consommés, usés, jetés, remplacés. On parlait tout à l'heure des paires de chaussures qu'on changeait tous les ans. C'est pensé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a de l'obsolescence programmée. Il faut vraiment sortir de cette culture de l'obsolescence programmée et aller vers la durabilité, mais aussi vers le réemploi. C'est-à-dire que le marché de l'occasion, le troc, c'est des systèmes, ça peut pas s'appliquer à tout, mais c'est des systèmes qui ont déjà fait leur preuve. Donc il y a vraiment ce changement culturel qu'il faut avoir, et c'est un changement qui au fond dépasse simplement les habitudes de consommation. C'est aussi comment est-ce que j'habite dans ma maison ou dans mon logement, c'est comment est-ce que je me déplace, est-ce que je prends pas un peu plus le vélo, est-ce que je prends pas un peu plus mes deux jambes, parce que c'est bien de marcher, ça permet de profiter de la beauté des paysages, mieux que quand on est dans l'habitacle d'une grosse berline qui file à vive allure sur l'autoroute. Et franchement, c'est vraiment un travail à la fois collectif et individuel à faire, mais qui là encore, pardon d'être un peu obsédé par ça, mais passera par le récit.
Ah non, mais moi j'en suis convaincu qu'il faut changer de récit aujourd'hui. En fait, le truc c'est que je crois que l'un des problèmes de l'analyse et de tout ce monde qu'on a vraiment adoré de la technique, finalement, c'est qu'on a démagifié le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Michel Landrieux, qui est un sociologue de l'imaginaire, qui est venu en parler sur ce podcast, mais qui explique que c'est super l'analyse, on a réussi à tout expliquer, à tout comprendre. En tout cas, on a cherché à le faire, puis après... on verra que finalement, quand tu auras des analyses quantiques, c'est pas aussi clair. Mais en tout cas, on a cherché à tout expliquer, tout comprendre. Mais en faisant ça, on a enlevé la magie du monde. Et donc, l'espoir.
C'est-à-dire qu'en fait, on a le désenchantement du monde, c'est quoi? C'est qu'on a éteint toutes les étoiles dans le ciel, les unes après les autres.
Ouais.
Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve là, seul sous son lampadaire, comme un con.
Avec son
téléphone. Franchement, et avec son smartphone, qui émet un faible halo de lumière. Mais franchement, c'est plus beau de regarder les étoiles.
C'est clair.
Et donc, moi, je vois la société d'aujourd'hui un peu comme des millions d'unités de gens qui regardent leur smartphone. Il y a des belles pages de Sylvain Tesson là-dessus. Et ce qu'il faut, justement, c'est arriver à reconquérir ces territoires perdus de l'imaginaire, de la beauté et de la rêverie. Et ça passe effectivement par ce que tu appelles, toi, la remagification. Moi, j'appelle ça le réenchantement du monde, mais c'est les mêmes processus qui sont à l'œuvre.
Et est-ce que tu crois, parce qu'on en parlait tout à l'heure du livre de Fourquet, est-ce que tu crois que les réseaux sociaux, moi j'ai la sensation en tout cas, que les réseaux sociaux ont détruit la démocratie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ça a renforcé les bulles. Aujourd'hui, chaque personne est dans sa bulle, et donc a l'impression qu'ils sont d'accord, donc ils ont sans doute raison, que les partis extrémistes manipulent extrêmement bien les réseaux sociaux, donc en fait manipulent les foules et d'abord par les emails, ils ont commencé comme ça, par les listes d'emails, mais après aussi à travers Twitter, mais aussi de manière plus générale les réseaux sociaux, après avec différentes techniques que j'ai pu analyser sur ce podcast. Est-ce que tu penses que c'est même compatible en fait?
C'est vrai que c'est aujourd'hui il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Certaines sont légitimes, d'autres non. D'abord, moi je crois quand même que les réseaux sociaux, par leur caractère décentralisé, horizontal, c'est un formidable outil de connexion et de liaison des gens. On l'a vu au moment des printemps arabes, c'est ce qui a permis de contourner. Quand les chaînes de télévision et les radios sont contrôlées entièrement par l'État, vous n'avez aucun moyen de faire entendre une autre voix, de faire entendre l'opposition. Et donc ça a été un formidable outil pour contourner en quelque sorte la censure et la dictature. Donc il peut y avoir des aspects formidables, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut être aussi assez attentif aux dangers que ça peut faire peser sur les démocraties. Et c'est vrai que les réseaux sociaux pas régulés du tout, on l'a vu aux États-Unis au moment de Trump, on l'a vu aussi au moment de l'élection présidentielle en France en 2017, ça peut avoir un impact sur les campagnes présidentielles, parce qu'il y a des fake news, parce qu'il y a des biais de confirmation comme on dit, c'est-à-dire des gens qui s'alimentent en quelque sorte dans de la manipulation ou dans de l'ambiguïté, parce qu'ils sont sur des communautés, en fait, des bulles dont ils sortent jamais. Et ça, le travail des pouvoirs publics, c'est pas de censurer les réseaux sociaux, mais c'est de les réguler de manière à ce qu'ils puissent jouer le rôle positif de connexion des gens, mais sans les aspects que
Mais là, ils ont demandé à Facebook de le faire lui-même, quoi. Donc c'est ça qui est un peu bizarre, parce que...
Ils ont demandé trop tard, surtout. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que ces réseaux existent et qu'ils ont conquis le monde, en quelque sorte, parce qu'il y a des milliards d'utilisateurs. Et on a attendu 10 ans pour se rendre compte que ça pouvait avoir un effet négatif sur la démocratie. Donc maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience, mais on est encore très très loin de l'optimum.
Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur sortir de la quantité pour aller vers la qualité, comment on emmène les entreprises ? Parce qu'en fait, les responsables de ça, concrètement, ça reste les entreprises qui essayent de... Tu vois, il y a quand même cette critique acerbe des entreprises qui sont toujours dans la maximisation des profits, et, les actionnaires sont dans la maximisation des profits. On parlait tout à l'heure de l'augmentation de la richesse des plus riches. Comment on les fait pour sortir de ce modèle-là, en fait ?
Ça veut dire déjà qu'il faut effectivement changer de modèle d'entreprise. Parce que l'entreprise dont tu parles, qui est très orientée sur la quantité, c'est une entreprise qui est elle-même un peu datée. C'est la multinationale type Procter & Gamble qui cherche à maximiser son profit.
Mais ils sont toujours dans ce modèle-là.
À faire des économies d'échelle, etc. Elles sont dans ce modèle-là, mais il y a aujourd'hui une nouvelle génération d'entreprises et d'entrepreneurs qui sont beaucoup plus, justement, dans le design, dans la qualité, et qui ont une autre gouvernance d'entreprise. Parce que la clé, c'est aussi la gouvernance d'entreprise. Mmh. Quant à la gouvernance d'entreprise, elle est uniquement déterminée par les actionnaires, ce qu'on appelle la shareholder value, la valeur actionnariale. Là, effectivement, on veut que ça crache de la rentabilité, du TRI chaque année, et c'est peu propice à ce genre d'évolution. Oui. En revanche, si tu as une gouvernance ESG ou une gouvernance beaucoup plus adaptée avec à la fois des salariés...
C'est quoi ESG ?
ESG, c'est une gouvernance qui fait droit aux impératifs environnementaux et sociaux, mais autrement que dans la seule RSE. C'est-à-dire que toute la culture d'entreprise est pénétrée en quelque sorte de ses objectifs sociaux, environnementaux et d'impact. Et ça veut dire que derrière, tu changes aussi le rapport de force. T'as pas juste les actionnaires. Bien sûr que les actionnaires, ils ont leur parole. C'est la base quand même du capitalisme, c'est que on détient des titres de propriété pour entreprendre. Mais t'as aussi à bord, en quelque sorte, le management, les salariés et ne les oublions pas quand même, le consommateur, l'usager. Et tout ça forme en fait une communauté vivante. C'est comme une communauté politique, sauf que là, c'est une communauté économique. Et cette communauté, en fait, il faut qu'elle prenne de plus en plus des décisions en commun. Et donc, l'intérêt de l'actionnaire, il faut qu'il s'aligne avec l'intérêt du consommateur et l'intérêt du salarié.
Ça, c'est le mouvement qu'a fait la Maïf.
C'est le mouvement du mutualisme. C'est vrai qu'il y a tout un tas d'entreprises. La Maïf est une très belle entreprise de ce point de vue-là, qui sont déjà dans cette culture-là.
Mais comment on emmène les autres ? Parce que moi, quand je les vois, ça va être mon métier aussi de le faire, mais c'est vrai que... ça résiste quand même.
La première chose qu'on peut leur dire, c'est que c'est pas cette évolution n'est pas ennemie de la valeur. C'est-à-dire que on fidélise les salariés, on crée une culture d'entreprise et parfois grâce à ça, on augmente la productivité de l'entreprise. Et ensuite, de toute façon, je pense que les changements vers lesquels nous allons vont être tellement importants, tellement massifs, que les entreprises seront obligées de s'adapter à ça. Regarde aujourd'hui déjà comment elles sont vulnérables au name and shame. C'est-à-dire que dès qu'une entreprise est impliquée dans des scandales liés à l'huile de palme, à la déforestation, à des pratiques sociales ou écologiques douteuses, il peut y avoir des campagnes menées par des ONG très aguerries, extrêmement violentes sur les réseaux sociaux, qui mettent le modèle de l'entreprise en danger. Donc les entreprises, elles, du point de vue du strict intérêt de l'actionnaire, elles ont intérêt à se réaligner. Ça va pas se faire sans douleur. Il y a des entreprises qui vont couler, parce que dans tous les changements, il y a de la destruction créatrice, comme disait Schumpeter. Il y en a d'autres qui vont se consolider ou qui vont émerger. Mais petit à petit, je suis assez optimiste. Je pense qu'on va aller vers une nouvelle gouvernance d'entreprise.
Ok. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte.
Je voudrais claquer la porte à toutes les mauvaises pensées, les mauvaises ondes et les mauvais virus qui nous sont parfois apportés par un monde où les courants d'air circulent trop.
Merci beaucoup, David.
Merci de ton invitation.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission,